Bonjour à tous. Quand André m'a... Ça va aller, si. Grégoire me fera des signes si jamais je parle pas bien dans le micro. Quand André m'a appelé pour me demander d'apporter le message ce matin, en m'expliquant qu'il sera absent, il m'a attrapé au fin fond des Deux-Sèvres, en short, en vacances. Et c'était un moment... En fait, ça a été assez facile pour moi de trouver de quoi j'allais vous parler ce matin, parce que c'était un moment où Zoé était toute folle d'avoir son papa tout le temps à la maison. Elle n'arrêtait pas de vouloir ma présence. Elle voulait tout le temps me parler. Alors moi, je ne comprends pas toujours tout ce qu'elle me dit, mais elle en est sûre. Et en fait, je trouve ça merveilleux parce que je me dis, ben, nous aussi, on a cette soif de la présence de notre Père Céleste. Des fois, lui aussi, il ne doit pas comprendre tout ce qu'on raconte dans nos prières. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Mais je crois qu'il apprécie ces moments avec nous. Et nous, on a cette soif, cette même soif de petit bébé, d'avoir la présence de notre papa, de lui parler. Et je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que Dieu a parlé dans ma vie, ça a été vraiment un moment particulier, ça a été un moment mémorable. En général, il y a eu des changements après. Alors j'ai commencé à reprendre dans la Bible tous ces moments où Dieu nous parle. Alors Dieu nous parle tout le temps. Il nous parle à travers sa parole, il nous parle dans nos prières, il nous parle à travers des tas de choses. Donc je me suis concentré sur les moments où Dieu nous parle face à face. Donc je vais prendre avec vous quelques passages dans vos Bibles. On va commencer par peut-être les plus marquants. C'est les passages où Dieu donne une vision, où il appelle un de ses serviteurs et où il l'emmène directement devant son trône. On va commencer avec Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impurs, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche, et il dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité a été enlevée, et ton péché est expié. » Alors, une des choses... qui nous marque peut-être le plus, c'est ce cri du prophète Ésaïe. « Malheur à moi ! Pourquoi est-ce qu'il est terrifié ?» On parle tout le temps d'un Dieu d'amour. Oui, un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu qui a dit dans sa parole « L'homme ne peut me voir et vivre. » Exode, chapitre 33, verset 20. Pour vous situer un petit peu le contexte de ce passage, Ésaïe dit que cette vision, il a l'année de la mort du roi Ozias. Ozias, il a été roi en Juda, le royaume du Sud donc, de 785 à 734 avant Jésus-Christ. Et il a tenté pendant tout son règne d'être fidèle à Dieu, même s'il a laissé subsister les hauts lieux où il y avait l'idolâtrie. Et à la fin de sa vie, on ne sait pas ce qui se passe, il veut apporter des parfums sur l'autel de Dieu. Ça part d'un bon sentiment, oui, mais apporter des parfums sur l'autel de Dieu... C'est réservé aux prêtres. Il a voulu prendre la place, une place qui n'était pas la sienne. Quelque part, il a méprisé la sainteté de Dieu. Et au moment où il a voulu faire ça, il a été touché par la lèpre. Et le prophète Ésaïe, le prophète Osée et le prophète Amos commencent tous plus ou moins leur ministère à ce moment-là. Donc en fait, on est dans une période où l'idolâtrie a subsisté dans le royaume et où le roi, celui qui a été choisi par Dieu, a commencé à pu savoir quelle était sa place et a pu prendre en compte la sainteté de Dieu, alors qu'il a passé sa vie à respecter Dieu. Donc on est dans une période où ça ne va pas bien pour le royaume de Juda. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. Les séraphins. Est-ce que vous savez ce que c'est, les séraphins ? Des propositions ? Des anges. Alors oui, on a tendance à les voir toujours comme des anges, alors un peu avec notre imagerie à nous. En fait, les séraphins, lorsque vous traduisez le terme, ça veut dire ceux qui sont de feu. C'est le même terme qui est utilisé dans le livre des Nombres pour parler des serpents brûlants dans le désert, qui apportent un jugement contre le peuple d'Israël. Donc oui, ce sont des anges. Mais ils ont une apparence assez impressionnante. Pour Esaïe, ils ont cette image de jugement. J'étais aussi interpellé par les 6 ailes. Les 6 ailes, deux dont ils se couvrent les yeux, deux dont ils se couvrent les pieds, et deux dont ils se servent pour voler. Alors ça, c'est pareil, j'ai cherché en fonction des traductions. Je ne comprenais pas pourquoi ils se couvrent les pieds. Certaines traductions disent « ils se couvrent le corps ». En fait, bien qu'ils soient éblouissants, puisqu'ils sont appelés ceux qui sont de feu, bien qu'ils soient sans péché, ils sont bouleversés par la présence de Dieu. Et ils sont incapables de le regarder en face, et ils sont incapables de se sentir dignes d'être vus en sa présence. Ils se couvrent le corps également. Et pourtant, on a beaucoup à apprendre de leur attitude. Ils ne se lassent pas de le louer, alors que nous, au bout de 45 minutes à peine, bon, on passe à la suite. Et ils sont prompts à lui obéir. Et ce séraphin, il fait quoi ? Quand Esaïe crie « Malheur à moi, je suis perdu », le séraphin, il va prendre une pierre ardente sur l'autel. Alors, c'est pas innocent. Dans la Bible, chaque mot a son importance. En fait, il prend une braise sur l'autel, là où sont apportés les sacrifices pour Dieu. On a Esaïe qui se retrouve face à un ange qui est un être de feu, qui apporte vers lui une braise. Moi, je sais pas, ça ressemble plus à un cauchemar qu'à une vision céleste comme ça. Ça ressemble à un jugement. C'est vraiment terrible. Il y a de quoi crier malheur à moi. Et en réalité, c'est pour lui annoncer que son péché a été payé. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité a été enlevée et ton péché est expié. Le péché a été payé par un substitut, l'animal qui a été sacrifié sur l'autel. Il est pardonné et il est accepté dans la présence de Dieu. À tel point que non seulement il peut rester dans cette présence de Dieu, il peut entendre Dieu lui parler face à face. Et lui, il va pouvoir parler également. Et vous rappelez-vous ce que Esaïe va pouvoir dire en présence de Dieu ? Me voici, envoie-moi. C'est son appel de prophète. Wow. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment envie que Dieu me parle face à face comme ça. Et en fait, quand vous prenez les témoignages, André Hubert, le pasteur, nous disait que lui aussi, un jour, il a été en présence de la puissance de Dieu, il était écrasé, il était à plat ventre, il n'arrivait pas à se relever. Et tous les témoignages de la présence de Dieu, c'est aussi impressionnant que ça. C'est vécu de manière différente. Alors, j'ai pris un autre passage, le premier chapitre d'Apocalypse. Pareil, c'est Jean qui a cette vision de Jésus-Christ. Je prends à partir du verset 9. Vous allez voir, c'est tout aussi impressionnant. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance de Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite, 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille avec force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Cette vision, je pense que beaucoup d'entre vous, vous l'avez identifiée, il s'agit de Jésus. Cette vision donc va lui révéler un message, va lui délivrer un message pour cette église d'Asie. Je reprends au chapitre 4, à la fin du message pour ces 7 églises. Jean regarde à nouveau autour de lui et il est donc devant ce trône. Il y a 4 êtres vivants qui ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient ». Dans le premier passage, le royaume de Juda était en décrépitude morale. Il y avait l'idolâtrie, le roi lui-même ne se rappelait plus ce qu'il avait le droit de faire devant Dieu ou pas. Là, dans ce passage-là, l'Église est persécutée. Jean dit ça avec une sobriété extraordinaire et dit « Moi qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume, à la persévérance de Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos. » Oui, en fait, il avait été déporté et emprisonné. En fait, ça aurait été Napoléon, il nous aurait fait les mémoires de Patmos. Jean, il va nous parler de Dieu. Il prend même pas la peine de mentionner qu'il est prisonnier. Il dit juste « J'ai part avec vous à la tribulation ». Oui, mais j'ai part aussi avec vous au royaume et à la persévérance en Jésus. Donc il est saisi en esprit. Donc l'Église est persécutée d'une part. D'autre part, les messages aux 7 églises d'Asie que je ne vous ai pas lus, ce n'est pas que des encouragements, c'est aussi un message pour leur dire « reprenez-vous, faites attention, changez ça ». Même l'Église n'est pas entièrement saine, même l'Église n'est pas entièrement sainte. Dans ces deux contextes, en fait, la révélation de Dieu, elle est primordiale. Elle est primordiale parce que ça ne va pas bien. Il y en a beaucoup qui se détournent d'eux, qui se sont détournés de Dieu, et ceux qui croient en Dieu... Ils ne savent plus trop où ils en sont, ils perdent un peu leur repère. Et en fait, dans ces deux visions, Dieu va leur révéler sa majesté. Il va leur rappeler, malgré les difficultés, qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs, qu'il est glorieux. Et on a besoin de se rappeler de ça. Au-dessus des difficultés, au-dessus de notre quotidien. Et il va leur rappeler sa sainteté. Parce que comme je vous l'ai dit, à chaque fois, bah, moralement, autour, ça va pas terrible. Aujourd'hui, je sais pas si on peut se sentir concerné par ça. Je pense pas qu'on ait trop de problèmes avec la pornographie, avec les images de femmes nues qui sont affichées partout, avec la perte de repères dans notre société. Je sais pas si on a ces problèmes aujourd'hui. Si, je crois qu'on les a. Je crois qu'on a besoin de se rappeler à quel point Dieu est saint. Dans ces deux passages, il nous est révélé aussi quelque chose, c'est que la sainteté de Dieu, c'est sa qualité essentielle. Fondamental. À chaque fois, c'est ce que rappellent les anges. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Un des noms de Dieu, c'est Kadosh. Et Kadosh, en hébreu, ça veut dire pur, physiquement, moralement et spirituellement. Waouh ! Un degré de pureté qu'on a bien du mal à atteindre. Non seulement la sainteté de Dieu est sa qualité essentielle, mais elle est visible et elle est effrayante. Et pourtant, Dieu ne souhaite pas qu'elle nous tienne loin de lui. Dans le premier passage, on avait vu, il y a un des séraphins qui prend une braise sur l'autel et qui la porte, il la pose contre la bouche d'Ésaïe. Ésaïe qui criait « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Et lui dit « Ton péché est expié. » Dans le deuxième passage, il n'y a rien de tel. Il n'a pas besoin de purifier Jean pour qu'il reste en sa présence. Pourquoi ? Purement parce que simplement, entre-temps, il y a eu le sacrifice de Jésus. Et donc, il n'a pas besoin de le purifier, il n'a pas besoin de racheter son péché. Ça a déjà été fait. Et là, on apprend quelque chose de très important. C'est que la sainteté de Dieu, elle se manifeste dans sa justice et dans son amour. Les deux ensemble. Quand je dis sa justice et son amour, ce n'est pas l'un de temps en temps, l'autre de temps en temps. Non. Ce sont les deux qui sont entremêlés. La sainteté de Dieu, c'est la justice dans l'amour. Parce qu'une mère, elle a l'amour envers son enfant. Mais est-ce qu'elle est tout le temps juste ? Une maman entre son enfant, qui est peut-être pas sage, et l'enfant d'un autre, qui est pas sage. Lequel des deux est insupportable ? Honnêtement. Donc il manque la justice. Mais la justice, sans l'amour, elle est implacable. Donc elle n'est pas sainte. Il n'y a que la sainteté de Dieu qui est à la fois ce mélange de justice et d'amour. Et ça, vous en avez une très très bonne image dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu décrit comment doit être créée l'Arche d'Alliance. Vous avez le propitiatoire, qui est le couvercle d'or, où était aspergé par les prêtres le sang qui provenait du sacrifice d'expiation. Donc, pour enlever le péché. Le propitiatoire, donc, il symbolise la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Et en dessous de ce couvercle, vous avez quoi ? Vous avez le rouleau de la loi, la justice de Dieu, la justice du Dieu qui pardonne. Les deux, ensemble, l'un ne va pas sans l'autre. L'arche était un seul élément. Ok, les visions, moi, ça me fait vraiment peur. Heureusement, Dieu ne choisit pas que des visions comme ça pour nous parler. Alors, il nous envoie des messagers, et parfois, on est tenté de penser qu'ils ont cette majesté de celui qui les envoie. Et en même temps, quand on reprend bien les passages, on n'en est pas sûr. Si vous prenez au premier chapitre de Luc, quand il y a un ange qui apparaît à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il est dit « Un ange du Seigneur apparut à Zacharie », au verset 11, pour ceux qui cherchent. « Un ange du Seigneur apparut à Zacharie, se tient debout, à droite de l'autel des parfums. Et Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. » Mais l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Mais en même temps, il n'est pas dit que l'ange il apparaît dans un tonnerre de lumière, d'éclairs, il n'est pas en train de brûler sur place. Peut-être que Zacharie est troublé parce que cet ange, il apparaît alors qu'il est dans le temple. Donc, il n'y a pas d'homme qui a quelque chose à y faire là. Donc, Zacharie peut déduire très vite que c'est un ange. Aussi parce que l'ange lui dit, ne crains point, ta prière a été exaucée. Quel homme peut dire ta prière a été exaucée ? Donc, Zacharie peut identifier très vite la nature du messager. Pareil, dans Juge 13, vous avez un ange de l'Éternel qui apparut à la femme de Manoac pour lui annoncer, alors qu'elle est stérile, qu'elle va avoir un enfant. Et quand elle en parle à son mari, elle lui dit « Un homme de Dieu est venu vers moi, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. » Ah, donc il y avait quand même quelque chose. Il y avait peut-être cette majesté. Son mari prie, il demande à Dieu de renvoyer cet homme pour que lui ait confirmation de ce qui a été dit, que ça vienne bien de Dieu. L'ange de l'Éternel revient et répète à Manoac tout ce qu'il a dit à sa femme. Et au verset 16, il nous est dit « Manoac ne savait pas que c'était un ange de l'Éternel. » Et Manoac dit à l'ange de l'Éternel « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» Et l'ange de l'Éternel lui répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Et là, cette fois-ci, Manoac sait qu'il n'est pas face à un homme. Il ne veut pas être glorifié, il n'a rien à faire avec le message, et il lui indique la nature céleste, il ne dit pas « Je m'appelle merveilleux ». Il dit « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. Ce n'est pas quelque chose que tu connais, ce n'est pas quelque chose qui vient de cette terre, c'est quelque chose de céleste, au-delà de tout ce que tu peux comprendre. Mais ce n'est pas ça qui est important. Je ne te donnerai pas mon nom. Je suis là pour te délivrer un message de la part de Dieu. Je ne te demande pas de me glorifier, je te demande de glorifier Dieu. » Voilà, il y a cet aspect redoutable. Mais des fois, on peut être impressionné par des hommes sans que ce soit forcément des anges. Et en fait, la plupart du temps, quand vous allez avoir des... où la Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange pour parler à quelqu'un, pour lui parler face à face, la plupart du temps, vous allez vous apercevoir que les interlocuteurs ne reconnaissent pas la nature du messager au premier abord. Jacob, quand il combat toute la nuit contre l'Éternel, si c'était une vision comme celle qu'a eu Ésaïe, si c'était une vision comme celle qu'a eu Jean, vous croyez vraiment qu'il se serait battu toute la nuit avec un être de feu, avec des séraphins autour en train de hurler « Saint, Saint, Saint et l'Éternel » Non. Il croyait qu'il se battait contre un homme. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est un peu le problème de toute sa vie, Jacob. Toute sa vie, il n'a pas reconnu l'Éternel pour Dieu. Et il a cru qu'il était obligé, lui, de remplir les prophéties avec sa ruse, avec son intelligence. Et c'est à partir de cette nuit, à partir de ce combat-là, au moment où il reconnaît qu'il est en train de se battre face à Dieu, son combat, ça devient « Non, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'as pas béni. » Parce que jusque-là, il n'a pas été béni parce qu'il a toujours voulu vivre les choses à sa manière. Et là, il va commencer à être vraiment béni. Et là, il va commencer à marcher avec l'Éternel. Lot, en Genèse 19, quand il y a les anges qui viennent le prévenir que Sodome va être détruite, il ne les reconnaît pas. « Ah, mes seigneurs, super, écoutez, je vous invite, passez la nuit, etc. » Il pense qu'il a affaire à des hommes. Quand les hommes de Sodome viennent pour demander à ce qu'il fasse sortir les anges pour leur faire du mal, il pense qu'il a besoin de les protéger. Et quand les anges lui sauvent la vie et l'emmènent ailleurs, il pense qu'il a besoin de les supplier. En réalité, c'est exactement l'inverse qui se passe à chaque fois. C'est pas Lot qui a besoin de protéger les anges. C'est les anges qui ont été envoyés pour le protéger. Et en réalité, c'est pas Lot qui a besoin de supplier les anges pour qu'ils l'emmènent moins loin, pour qu'ils prennent en compte ses besoins, sa faiblesse. En réalité, c'est Dieu qui est obligé de supplier Lot pour réussir à le sauver. On va prendre ensemble, si vous le voulez bien, le chapitre 6 du livre des Juges. Gédéon, un héros que les pasteurs aiment bien. Je lis à partir du verset 11. « Puis vint l'ange de l'Éternel. » Au moins c'est clair, on sait tout de suite de qui il s'agit. « Et il s'assit sous le térébenthe d'Ophra. » Il ne pouvait pas donner des noms simples aux arbres à l'époque. Qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et oui, encore une fois, on est dans un contexte un peu compliqué. C'est-à-dire que le royaume d'Israël, il est un peu obligé de se cacher parce qu'il y a sans arrêt des incursions ennemies. Ils se font piller en permanence. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros !» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur !» Si l'Éternel est avec nous, pourquoi est-ce que toutes ces choses nous sont arrivées? Et ils sont où tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils nous disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Non, maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Est-ce que vous croyez qu'on parle comme ça à Dieu face à face? Si on a conscience qu'on est en train de parler à Dieu, on ne parle même pas comme ça à son patron. L'Éternel, vous avez remarqué? Pas l'ange de l'Éternel. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Oui, c'est l'Éternel qui lui parle. Mais est-ce que Gédéon, d'un seul coup, à cette révélation, c'est l'Éternel qui lui parle? Je sais pas. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, mais avec quoi est-ce que je pourrais délivrer Israël ?» Et tout juste, il lui dit pas « T'es drôle, toi. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. » Je suis plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Et là, Gédéon, il commence à avoir un doute et lui dit, « Oh, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Là, il a un doute, mais il veut quand même être sûr. Il n'a pas envie d'être pris pour surprise. Il se dit, « Ça se trouve, c'est un mec qui se moque de moi. » Mais quand même, là, il se dit, « Oh, c'est peut-être Dieu qui est en train de me parler. » Donne-moi un signe. Pour accélérer un peu, le signe, en fait, Gédéon va faire une offrande, un chevreau et de la farine, et il va les poser sur un rocher. L'ange, avec le bâton qu'il a, va toucher la chair du chevreau, et là, l'offrande se consume. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel, j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face !» Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Encore une fois, pourquoi ? Dieu m'a parlé, je vais mourir, toujours à cause de Exode 33:20, l'homme ne peut me voir et vivre. Vous vous rappelez à qui Dieu avait dit ça ? L'homme ne peut me voir face à face et vivre ? C'était à Moïse, celui à qui il parlait comme à un ami. Mais cette fois-ci, la terreur, elle ne vient pas au début. C'est pas dès qu'il voit l'ange, aussitôt il est catastrophé, je vais mourir, j'ai vu un ange, je vais mourir. Non, il parle tranquillement, ils discutent ensemble, ils se plaint. Ah mon pauvre Seigneur, ben, si tu te rends compte, on n'a pas de chance. Les ennemis, il faut rien qu'à nous embêter. Et puis moi, je suis tout petit, je suis tout faible. Ma famille, c'est les plus pauvres et c'est les moins puissants. Qu'est-ce que je peux bien faire ? Et d'un seul coup, quand il comprend qu'il est en train de parler à Dieu, ah là là, c'est terrible, je vais mourir. Mais ça fait un quart d'heure que tu serais mort si Dieu avait voulu ta mort. Mais la terreur, elle vient plus de la sainteté visible de Dieu. Là, on en est sûr. Mais elle vient du fait qu'il reconnaît d'un seul coup qu'il s'est adressé au Dieu trois fois saint. Alors, on rigole du pauvre Gédéon, mais il y a plus récent. En Luc au chapitre 24, vous avez deux disciples qui vont à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. On est après la crucifixion de Jésus-Christ. Pendant qu'ils parlaient et qu'ils discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Et là, ils commencent à discuter. Ils disent, « Quoi ? Mais tu ne tiens pas au courant ? Tu lis pas les flux RSS ? Tu n'as pas lu le journal ? Jésus est mort ?» Et là, Jésus, qu'ils n'ont toujours pas reconnu, commence à leur expliquer, en prenant la Bible, tous les passages où il est fait question de lui et qui disent qu'il devait mourir et ressusciter. Il leur donne tous les éléments pour comprendre intellectuellement. Mais ils ne reconnaissent toujours pas à qui il parle. Et je reprends au verset 28. « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Alors ils le pressèrent en disant, « Non, reste avec nous, le soir approche. Le jour est sur son déclin, regarde. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Ils se dirent à ce moment-là l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Dans ces deux passages, vous avez des personnes qui ne comprennent pas, qui sont en train de s'adresser à Dieu ou à son messager. Moi, je suis bouleversé par la simplicité du Seigneur ou des anges qui l'envoient. Contrairement à ce qu'on peut imaginer quand on regarde les visions qu'il nous donne, les visions, c'est pas un rêve, c'est pas quelque chose d'imaginé, c'est réellement ce qui se passe dans les cieux, parce que on voit la nature des choses, la nature spirituelle des choses. Mais quand Dieu vient nous parler ici, aujourd'hui, maintenant, il est d'une simplicité, on n'a pas un Dieu d'effets spéciaux. Il ne se croit pas obligé d'en faire des tonnes. Il ne fait pas tomber la foudre, rouler le tonnerre, etc. quand il s'adresse à nous. Il nous parle en quelque sorte d'homme à homme, si je peux me permettre l'expression. Et en fait, on croit vraiment qu'on parle à un homme. Mais il se passe quelque chose dans le cœur. Hein ? Je reprends ce qu'ils nous disent. « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Il se passe quelque chose à l'intérieur, mais pour autant, ils ne comprennent pas. Je crois que c'est exactement ce que Dieu recherche, en fait. Ce qu'il veut, c'est qu'on comprenne le message avant de comprendre qui le donne. Parce que sinon, on a affaire à un ange. Regardez les réactions à chaque fois. « Oh là là, c'est terrible, je vais mourir !» Et on est dans une sorte d'excitation, et c'est à peine si on écoute ce qu'il nous dit. Là, il nous donne le message, et à la fin, il nous montre la nature de celui qui nous l'a envoyé. Pour pas que l'ennemi puisse venir et mentir. Pour pas qu'on se dise « Non, j'ai peut-être rêvé », qu'on se mette à douter. Dans le deuxième passage, vous remarquerez que les disciples ils n'ont pas cette terreur de mourir, qu'on voit tout au long de l'Ancien Testament. Parce que là, on n'a plus affaire à des croyants qui sont enseignés au sujet de Dieu, au sujet de la sainteté de Dieu. On a affaire à des disciples de Jésus qui le connaissaient, qui l'avaient fréquenté, et qui avait une relation avec lui. Et vous avez cette peur qui a disparu, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Mais je voudrais vraiment revenir sur ce qui se passe dans le cœur. C'est quelque chose qui est confirmé dans plusieurs passages par un patriarche, le patriarche, Abraham. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Quand vous prenez au chapitre 14 de la Genèse, c'est un passage que beaucoup d'entre vous connaissez bien, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer, alors, son neveu Lot était allé habiter à Sodome, il y a eu une bataille, il y a d'autres rois qui ont emmené les gens de Sodome en captivité, y compris Lot. Abraham, qui est somme toute un berger, il a des gros troupeaux, mais il prend tous ses serviteurs, il y va et il défait des soldats de métier. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et là, il y a un personnage qui arrive, Melchisédek, roi de Salem. Alors lui, on ne le connaît pas, on ne nous donne même pas sa généalogie, rien. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes, prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas un fil, pas un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Alors, on va remettre un petit peu dans le contexte. Le roi de Sodome, ce qu'il est en train de faire, quand c'est Abraham qui l'a délivré. Globalement, Abraham pourrait se servir de lui-même. Quand le roi de Sodome arrive, il dit « Écoute, rends-moi juste les gens de mon peuple et je te laisse tout le reste. » En gros, il est en train de conclure une alliance. De dire « Voilà, toi et moi, on fait équipe, on fait moite-moite. Tu vois, je suis cool, t'as récupéré des trucs qui sont à moi, mais je te les laisse, c'est un cadeau. » Il essaie de se mettre en bonne situation. Et là, Abraham, il refuse une alliance. Mais ça se fait pas. C'est pas poli. On jette pas quelqu'un comme ça qui vient pour faire une alliance. Oui, mais c'est le roi de Sodome. Et juste avant, il y a ce personnage, Melchisédek, roi de Salem. Roi de Salem. Salem, ça veut dire la paix. Vous avez le roi de paix, le sacrificateur du Très-Haut. Et étonnamment, tous les rois, normalement, il y a une généalogie. Bah, lui, c'est le fils de personne. Peut-être parce qu'il est incréé. Peut-être parce que c'est Jésus. Peut-être. Et Abraham lui donne la dîme de tout. Et peut-être qu'Abraham, lui, il reconnaît cette divinité dans son interlocuteur, puisqu'il lui donne la dîme. À l'époque où il n'y avait pas encore la loi, c'est quelque chose de spontané. C'est pas un hasard. Abraham, chaque fois qu'il est en présence d'un messager de Dieu, il le reconnaît. Quelques chapitres plus loin, en Genèse 18, vous avez un passage où Dieu va lui confirmer la naissance d'Isaac. C'est une promesse qu'il lui a déjà faite, mais il y a du temps qui s'est passé. Je lis au verset 1, chapitre 18, Genèse. « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa porte pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente, il se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, et après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Et ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et lui dit, « Vite, tu prends trois mesures de fleurs de farine, tu pétris et tu fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, il prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il le mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque. Et voici ta femme, Sarah, aura un fils. » Sarah, écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Alors, ça, c'est parce que ça se passe au Moyen-Orient et il y a longtemps. Hein. De nos jours, il n'y a plus aucune femme qui écouterait ce qui se passe à côté quand même, quand il y a des invités. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Alors elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, est-ce que j'aurai encore du désir ? Mon Seigneur aussi est vieux. » Ça c'est sympa. Parler d'elle, elle n'était pas obligée de parler de l'état de son mari, mais bon. L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Ah, elle a ri à l'intérieur d'elle-même, et pourtant il a entendu. « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Deuxième fois. Alors Sarah, qui sent un peu découverte, elle sort, et puis elle ment. Elle dit, non, j'ai pas ri, parce qu'elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Et ses hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Ces hommes, ils étaient trois. Comment est-ce qu'on peut dire que il y a l'Éternel qui est là. Bah, purement et simplement, parce qu'en fait, la Bible est toujours extrêmement sobre. Il faut bien regarder les détails. Il y a trois hommes. Il ne nous est pas dit qu'il y ait quoi que ce soit qui les différencie. Abraham, on nous dit qu'il est déjà vieux. Apparemment, sa femme trouve qu'il est trop vieux pour faire des galipettes. Et pourtant, il court au-devant d'eux. Il se prosterne à terre. Il se jette devant eux. Et il dit « Seigneur ». Il ne dit pas « Mais Seigneur ». Il dit juste « Seigneur ». Il parle qu'à un d'eux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin ton serviteur. Alors oui, il les traite comme des hommes, et il leur propose du repos, de leur laver les pieds, de leur donner à manger. Mais il s'adresse à l'un d'entre eux et il l'appelle Seigneur. Qui plus est, il prépare un repas avec de la farine, de la fleur de farine et un veau tendre. Et bien plus tard, quand Moïse recevra la loi de Dieu, la fleur de farine, c'est ce qu'il définira comme une offrande qui lui est d'agréable odeur. Et le veau, c'est ce qu'il désignera comme animal qui doit être sacrifié en sacrifice d'expiation, c'est-à-dire le sacrifice qui rachète les péchés. Vous voyez, le cœur d'Abraham, il a, avant même que la loi existe, de lui-même, il reconnaissait Dieu, et il faisait spontanément ce qui faisait plaisir à Dieu. Abraham était un homme, et il a fait des erreurs énormes dans sa vie. À deux reprises, comme sa femme était trop belle et qu'il avait peur d'avoir des ennuis, qu'on cherche à lui piquer, il dit « Bon, écoute, t'es sympa, dis pas que t'es ma femme. Quitte à ce qu'on te pique à moi, je préfère qu'on dise que je suis ton frère, comme ça au moins on me fera des cadeaux. » Et deux fois, ça s'est passé comme ça. Et deux fois, c'est Dieu qui récupère le coup. C'est pas Abraham. Abraham n'était pas parfait. Mais il y a une chose dont on peut être admiratif, une chose qu'on peut lui envier, c'est sa capacité à reconnaître l'Éternel, quelle que soit l'apparence. Alors, quand on prend l'exemple d'Abraham, quand on reprend le commentaire des deux disciples tout à l'heure, est-ce que nos cœurs ne brûlaient pas ? Je ne crois pas que c'est Dieu qui provoque une petite brûlure pour dire « Hé, c'est moi, reconnais-moi !» En plus, ça c'est facile à contrefaire. Satan, c'est le roi de la contrefaçon. Avec les émotions, il peut nous faire penser des tas de choses, imaginer des tas de choses. Non, je crois que ce qui a provoqué cette brûlure dans le cœur, ce quelque chose qui se passe, c'est le fait qu'on a affaire à des gens qui connaissent et qui aiment Dieu. Et c'est notre cœur qui identifie celui qui nous parle. Même quand il utilise un messager. Le messager, là, on a vu que ça pouvait être un ange, mais ça peut aussi être notre femme, ça peut être notre voisin, qui n'est même pas chrétien, ça peut être notre collègue de travail, qu'on ne supporte pas. Pas nous dans cette assemblée, hein, mais dans d'autres églises. Il y a des chrétiens qui ne supportent pas des collègues au travail, je vous jure. Ou des fois un parfait étranger. Dans le livre des Proverbes, il nous est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». C'est un verset que me répète souvent Florence, donc je lui fais un petit copyright. Parce que notre cœur, c'est ce qui permet de reconnaître Dieu. Soit on le remplit de Dieu, soit on le remplit du monde. Nous, on dit le monde, en fait, c'est l'ennemi. On le remplit de nous-mêmes, on le remplit... À partir du moment où on le remplit de quelque chose d'autre que Dieu, on n'a pas gardé notre cœur. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître Dieu dans les personnes que nous croisons. Hein. Il s'agit aussi de reconnaître l'importance de nos actes et de nos attitudes. À l'époque de Moïse, quand la gloire du Seigneur remplissait le tabernacle, Moïse lui-même ne pouvait pas rentrer dans la tente de la rencontre. La gloire de Dieu était vraiment très présente. La loi venait d'être délivrée, tout le monde connaissait les manifestations de Dieu, il était tout le temps présent, il y avait toujours la colonne de fumée ou la colonne de feu qui accompagnait le peuple, il y avait des miracles sans arrêt qui se produisaient. La loi venait d'être donnée, et chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, tout le peuple relisait toute la loi pour bien s'en imprégner. Et à l'époque, Dieu avait établi Aaron et ses 4 fils pour exercer le sacerdoce, pour le servir. Et 2 de ses fils, Nadab et Abihu, ont pris un brasier, un feu quelconque. Ils ont mis le feu et ils posèrent du parfum dessus. Ça veut dire qu'ils ont apporté du feu étranger, profane, devant l'Éternel. Ils pensaient faire plaisir à Dieu. Ça partait d'un bon geste. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas fait attention à ce que Dieu lui-même avait qualifié de saint. Et ils ont manifesté un manque de respect. Et le problème, c'est un moment où la présence de Dieu était très forte et l'irrévérence ne peut pas subsister dans la présence d'un Dieu saint. Alors le Dieu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Ça fait partie des passages qu'on a horreur de lire. C'était des gens qui servaient Dieu et pourtant Dieu les a punis. Parce que ils n'ont pas gardé leur cœur. Ils servaient Dieu, peut-être qu'ils aimaient vraiment Dieu. Mais simplement, à un moment donné, ils n'ont pas prêté suffisamment attention à ce qui était important pour lui. Et ce cœur attaché à Dieu, ce n'est pas la religion qui permet de l'obtenir. Il y a un passage où Dieu dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils nettoient leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. » Exode 19, versets 10 et 11. Avant que Dieu ne manifeste sa gloire, et sa gloire, c'est lui-même, c'est sa présence. Avant que Dieu ne manifeste sa gloire, le peuple doit se sanctifier, y compris laver ses vêtements, y compris l'aspect extérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis une veste. Je ne suis pas différent de d'habitude, mais aujourd'hui c'est moi qui vous apporte la parole. Et je ne veux pas être un obstacle pour quelqu'un qui dirait « mais c'est qui ce gars qui est en train d'apporter la parole de Dieu en tongs et en chemise à carreaux ?» Non pas que ce soit un péché, mais voilà, je ne veux pas que vous puissiez penser que je manque de révérence envers Dieu. Le peuple doit sanctifier. Et le troisième jour, effectivement, comme Dieu l'avait dit, il se manifeste au milieu du tonnerre, des éclairs, d'une épaisse nuée. Le son du cor retentit fortement dans le camp des Hébreux, et pourtant personne ne souffle dans le corps. Et le mont Sinaï tremblait avec violence. Ça, il n'y a personne qui peut le... Même en tapant très fort du pied, on ne peut pas faire des effets spéciaux comme ça. Quand Moïse parla, Dieu lui répondit, et tous l'entendirent. Tous sont témoins de cette conversation entre Dieu et Moïse. Aujourd'hui, souvent, on a tendance à « oui, Dieu m'aime, j'aime Dieu », on a tendance à en parler comme un copain. Un copain. « Oh, Dieu me comprend, c'est Dieu, il est cool, Jésus, c'était le premier hippie. » Ouais, mais c'est pas faux. Mais c'est aussi le Seigneur. Et il n'a pas changé. Et quand on est dans sa présence, regardez ce qui se passait en Exode 20. Le peuple tremblait. Il se tenait dans l'éloignement, et ça c'est terrible. Il ne voulait plus entendre Dieu, il ne voulait plus le regarder. Il ne supportait pas la présence de la gloire de Dieu. Et Moïse s'empresse de les mettre en garde, il les encourage à revenir dans la présence de Dieu. Il leur explique que Dieu est venu pour les mettre à l'épreuve. Quand Dieu nous met à l'épreuve, lui c'est déjà ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est pas lui pour voir, dire tiens, je vais faire un petit coup de vis, je vais voir ce qu'il y a vraiment. Non, lui il le sait, c'est pour que nous on découvre ce qu'il y a vraiment dans notre cœur. Parce que des fois nous on croit qu'on est sincèrement attaché à Dieu. On croit qu'on désire sa présence. On croit qu'on a vraiment envie de passer du temps avec lui. Puis après, on dit, je comprends pas, j'y arrive pas. On le croit. Moïse, lui, craignait Dieu, mais le peuple ne le craignait pas. Et si nous n'avons pas une crainte respectueuse de Dieu, on a peur de lui quand sa gloire se révèle. Car tout genou fléchira dans la crainte de Dieu ou dans la terreur. De Corinthiens, chapitre 5, versets 10 et 11. Il ne suffit pas de la religion. Il ne suffit pas de laver ses vêtements pour être prêt à rentrer dans la présence de Dieu et lui parler face à face. Il ne suffit pas d'aimer les bénédictions pour aimer Dieu. Tout le monde aime les bénédictions. Le Seigneur, à un moment donné, il a proposé à Moïse d'entrer dans la terre promise et d'envoyer un ange pour en chasser les peuples qui y habitaient. Mais Moïse lui répond, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » Il refuse la promesse de Dieu si ça doit le priver de la présence de Dieu. C'est gentil de venir écouter. Même les mouches viennent écouter la parole de Dieu. On est bénis ce matin. À un moment donné, Dieu en est là de tous les caprices du peuple et il dit à Moïse, si tu veux, on arrête tout et je vais te donner une descendance et c'est à travers toi qu'on va faire le peuple élu. Et Moïse lui dit, non, pourtant ça aurait été une bénédiction pour Moïse. Mais il dit, non, que vont dire les autres peuples à propos de toi? Ce qui motive Moïse, c'est la gloire de Dieu. Ce qui motive Moïse, c'est Dieu lui-même. Physiquement, c'était le même que n'importe quel hébreu. Mais son cœur était différent, parce que lui préférait le donateur au don. Des fois, Dieu, il nous fait des cadeaux, mais parfois, il aime bien qu'on les refuse et qu'on lui montre qu'on est vraiment attaché à lui plutôt qu'à ce qu'il nous donne. Jésus nous dit qu'il y en aura qui chasseront les démons, qui feront des miracles en son nom, qui l'appelleront Seigneur, Sauveur, et pourtant qui négligeront de vivre dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Et c'est cette différence de cœur dont nous parlons. Contrairement à ce qu'on dit, parfois, on n'a pas vraiment envie de Dieu. On veut bien ses bénédictions, on veut bien aller à l'église parce que les gens sont sympas, qu'on les apprécie bien, mais on n'a pas vraiment envie de bouleverser nos vies pour lui. On ne veut pas lui donner accès à toute notre vie. Alors lorsque Dieu nous parle face à face, bien sûr, il nous délivre un message. Un message qui peut être pour un peuple entier ou pour nous. Mais outre le message qu'il nous délivre, il nous délivre aussi une information sur l'état de notre relation avec lui. Mais quand il prend la peine de venir nous parler face à face, il vient aussi nous montrer qu'il nous aime, qu'il nous juge dignes de son intérêt et de son affection. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Malgré tout ce qu'on fait, malgré toutes nos erreurs, malgré toutes nos faiblesses, on est digne de son intérêt et de son affection. Il nous montre aussi que nos péchés ne sont pas un obstacle suffisant pour nous tenir éloignés de sa sainteté. Vous vous rappelez le premier passage qu'on a lu, Ésaïe, il efface, la première chose qu'il fait, il efface le péché d'Ésaïe avec cette braise. Je dirais même, il l'efface juridiquement. Et il a fait la même chose pour chacun d'entre nous à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Le fait que Jésus est mort à la croix pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre péché est racheté. S'il est racheté, il est effacé. On n'en parle plus, il n'existe plus. On est justifié devant Dieu. Nous, ça nous dit quelque chose sur nous aussi. Nous sommes une nouvelle créature. Nous ne sommes plus l'ancienne personne qui était esclave du péché. On n'a plus à avoir honte de nos erreurs et de nos péchés passés. Et la Bible nous dit aussi que nous sommes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque Dieu vous regarde, c'est Jésus-Christ qu'il voit. En Jésus-Christ, vous êtes mort, vous êtes justifié, vous êtes saint et vous êtes acceptable devant Dieu. Parce que c'est Jésus qu'il voit. On a dit la sainteté de Dieu se manifeste à travers sa justice et son amour. Et la manifestation ultime de la sainteté de Dieu, c'est la mort de son Fils sur la croix au calvaire. Oui, Dieu souhaite notre présence. Il souhaite nous parler face à face. Il le manifeste dans la Bible, il le manifeste à la croix, parce qu'il a mis tout en œuvre pour que cette discussion, elle puisse avoir lieu. Mais nous, on a une chose sur laquelle on doit veiller. Notre réel désir de lui parler et de répondre à ses demandes, c'est-à-dire l'état de notre cœur. Est-ce qu'on vit vraiment la nouvelle vie qu'il nous a offerte, ou bien est-ce que nous empochons le salut qu'il nous a donné à la croix par la mort de Jésus-Christ, en disant « Ah merci, super, mon péché est pardonné », mais on continue à vivre comme avant. Quand Dieu nous parle face à face, la question qu'il nous pose, c'est « Est-ce que vous avez réellement soif de vivre la nouvelle vie en Jésus-Christ ?»